Disons que la batterie roule.
Oui.
Le rideau se lève.
Bien.
Toi, tu vas te préparer par là.
Oui.
Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
Ah, ah non.
Les radios francophones publiques présentent Charles Aznavour sur ma vie. Une émission de Francis Legault
sur France Inter.
On a tous été les traîne-valises de Piaf. Mais on n'a pas été les traîne-valises parce qu'elle nous forçait à porter les valises. On était les traîne-valises de Piaf parce qu'on avait suffisamment d'admiration pour elle pour la décharger de beaucoup de petits ennuis, de petits soucis. Et si c'était à refaire, je redeviendrais le traîne-valise de Piaf. Je n'ai pas honte d'avoir été ce qu'elle dit. Je pense que personne n'a à avoir honte de ça. Et il y a avec chaque vedette des traîne-valises. Mais si on pense que ces gens sont des traîne-valises, on ne peut plus avoir d'amitié pour eux, autant les chasser tout de suite.
Charles Aznavour, au nom de la jeunesse.
Au nom de la jeunesse.
La jeunesse.
Au nom de la jeunesse.
La jeunesse.
Au nom de la jeunesse, aux saisons des beaux jours, mes jeunes idées courent, étalent leur faiblesse au soleil de l'amour. Au nom de la jeunesse, au printemps tourmenté de mes tendres années, ce vôtre m'apparaisse dans la fraîche rosée. D'un autre idéalisme, dans un nouveau décor, le romantisme est mort, vive le romantisme qui en renaît plus fort. Et porte la tignasse qu'il te plaît à porter, car présent ou passé, le cœur reste à sa place, mais il va syncoper. Au nom de la jeunesse, au jardin de ses fleurs, je n'ai pas de couleur, je n'ai que ma détresse que l'on prend pour fureur. Au nom de la jeunesse, je cherche à effacer tout un monde empesé par besoin de tendresse et par soif d'être aimé. Et ce qui me diffère, c'est qu'avec des chansons, je rythme mes passions pour faire à ma manière une révolution. Et chante mes problèmes et dors ici ou là. Le monde est sous mes pas et je vis comme j'aime et l'amour est sans loi. Au nom de la jeunesse, au cri de liberté, je me laisse brûler à la tendre caresse du feu de l'amitié. Au nom de la jeunesse, je ressemble surtout à un jeune chien fou qui sans maître et sans laisse veut vivre comme un loup. En condamnant la guerre, je deviens inquiétant et surtout déroutant par mon vocabulaire qui est celui d'un enfant. Je suis fait de souffrance, je veux garder encore et toujours en mon corps la grâce de l'enfance jusqu'au jour de ma mort. Au nom de la jeunesse, avant que disparaisse de ma vie l'âge d'or.
En septembre 1948, Charles Aznavour et Pierre Roche s'envolent pour New York. Édith Piaf les avait mis au défi de venir la rejoindre. Au nom de la jeunesse, les deux chanteurs français se retrouvent en Amérique sans visa, sans billet et sans un sou. Longwell Hotel, good morning. How can I help you? La chambre de Paul Buissonneau, des compagnons de la chanson? Un instant, je vous passe la communication.
À un moment donné, Roche et Aznavour sont venus nous rejoindre. Ils avaient dit à Piaf
on va aller vous rejoindre à New York. Je vous avais dit. On n'y croyait pas. C'était des gens pas argentés qui faisaient des petites tournées un peu ici et là. Et ils ont quand même réussi, je ne sais pas par quel subterfuge, à s'amener à New York.
Vous cherchez les duettistes chez Aznavour? Je les ai aperçus dans le lounge avec Jean Raffa.
Un mois avant, on était avec Piaf à Paris et on avait parié avec elle de venir lui dire bonjour à New York. Elle nous avait dit, mes enfants, là je vous quitte, après une tournée je vous quitte, je pars à New York travailler. Et alors on lui a dit, bon, on va aller vous dire bonjour. Elle dit, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas chiche de venir. Elle dit, comment, on n'est pas chiche de venir, vous allez voir.
On est parti à New York, enfin on est parti à New York, on s'est d'abord arrêté à Amsterdam où c'était les fêtes du couronnement. Et alors là, ils se sont pas rendus compte qu'on n'avait pas de visa, puisque c'était en pleine euphorie, on n'avait pas de visa, on avait très peu d'argent, on avait quelques dollars seulement.
Et notre place d'avion n'était pas retenue pour New York, en
c'est
plus.
Ça. Mais heureusement pour nous, on parlait pas l'anglais non plus.
Non.
En fait, quand on a débarqué à New York, tous les deux, frais et dispo, on a vu la Statue de la Liberté, je me souviens, ma première phrase a été « Amérique, à nous ». Et on nous a filé en tôle.
Ah oui?
Oui, immédiatement. Ah, ça, bah, j'étais gentil, très gentiment.
C'était 3 jours de prison dorée.
Trois jours et quatre nuits, hein, c'est ça.
Ouais.
Et vous nourrissez bien?
Ah, c'était très très bien,
oui,
ça, faut bien dire. On était à Ellis Island. Il y avait avec nous d'autres immigrants qui n'avaient pas pu toucher la terre promise.
Mais comment vous êtes sorti de cette prison? Par quel sortilège?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on est passé en jugement et je pense que les juges nous ont trouvés très amusants tous les deux. Ils ont bien vu qu'on n'était pas venu pour tuer le président de la République. Je dis ça parce que c'était marqué dans le questionnaire. Êtes-vous venu pour tuer le président de la République? Et alors, comme nous, on n'avait pas du tout des instincts meurtriers et que... En fait, je ne sais même pas si on connaissait le nom du président de la République américaine, pas du tout. Alors on lui a dit non, puis on lui a parlé chanson. Il a vu qu'on ne parlait pas de politique et il nous a donné un permis pour entrer aux États-Unis.
Et là, vous avez travaillé à New York alors?
Alors là, on a
trouvé un contrat à New York. On n'y a pas travaillé.
Longwell Hotel, good morning. How can I help you?
Jeune homme, ses valises à la chambre de French et Jarreau. Vous savez bien, le boy de Miss Tinguette.
C'était à l'hôtel Longwell, c'était au 123 Ouest sur la 44e rue, presque au coin de Broadway. C'était un hôtel de... Bon, je dirais pas minable, mais c'était pas un hôtel de grande classe. Mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui venaient, notamment les compagnons de la chanson venaient à cet hôtel-là quand ils arrivaient à New York. C'était 1948. Alors donc, on s'est retrouvés à ce moment-là dans ce fameux hôtel. Mais ça n'allait pas parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, à un moment donné, pas avec Roche, parce que Roche, c'est un compte. Alors, n'est-ce pas, vous touchez pas les comptes. Lui, il s'abaisse pas aux petites choses. Mais nous, il fallait qu'on ramasse des bouteilles vides, des bouteilles de coke vides, et quand on en avait pour 18 cents, on allait acheter un pain. Et quand moi, je travaillais, alors j'avais, à ce moment-là, j'avais 25 dollars, c'était la fortune, alors on allait manger sur la 6e avenue. Parce que quand on arrivait sur la 6e avenue, tu avais droit à la bière, mais quand on donnait de la bière, tu avais droit au sandwich, tu avais droit aux cacahuètes, puis les olives et tout ça, ça faisait un repas complet. Et quand on avait un petit peu plus d'argent, alors on mangeait sur la 42e rue, au coin de Broadway, les fameux hot dogs qui mesurent je ne sais pas combien de... Alors là, c'était des repas complets. Et effectivement, comme nous n'avions pas d'argent... On jouait au poker. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait la chanson de « On prend les cartes, on bat les cartes, on fait absente ». Et on arrangeait notre chance un tout petit peu. On arrangeait notre chance, il faut dire la vérité. Et quand Paul Buissonneau l'a appris, il a eu des réactions qui étaient immédiates, mais qui étaient très drôles.
Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, comme on les force boissons, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. C'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on les cartes. J'en jette trois, car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui deux cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Ah, faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. Je suis blind, à toi de parler, dit au second au premier. Ce dernier s'écrit parole. Le troisième est mis 100 francs, j'ai dit 100 plus 1000 francs. Les deux autres s'arrêtent au vol. Le troisième me dit, voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as? Trois dames, j'ai gagné, je prends non, dit-il, car j'ai trois rois. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je me dis, qu'es-tu venu faire dans cette galère? On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on les cartes. Je me dis, maintenant, va falloir se refaire. Pendant toute la partie, je me faisais des reproches. Quand se termina la nuit, je n'avais plus rien en poche. Avant que je ne parte, je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes et les piétine avec colère. Au moment de m'en aller, j'entends des coups de sifflet. Une descente de police. Les inspecteurs du quartier veulent tous nous interroger. Me voici devant la justice. Ils me disent, mon garçon, nous sommes bons et te donnons une minute pour t'expliquer. Je leur ai dit, affolé, on prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je n'ai jamais rien eu de meilleur qu'une paire. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit, puis on écarte. Je vois très bien, me dit le commissaire. On va vous emprisonner, car du reste, je m'en fiche. Mais on va vous affecter au département des fiches. On prend les cartes, on regarde les cartes, on trie les cartes, on range les cartes. En prison, je suis devenu fonctionnaire. Tout ça parce qu'un jour, un bien triste jour, j'ai voulu jouer au poker.
La chambre de Paul Bussonneau ? Oui, oui, c'est à droite tout au fond. Vous pouvez pas le manquer. Il parle si fort, vous l'entendrez du couloir.
Un jour, il arrive dans la chambre, il dit « Fred n'est pas là ?» Je dis « Non, il a été faire une course. » Et il aperçoit les gants de boxe. On avait une paire de gants de boxe avec lesquels on se faisait des petits combats dans les chambres. Alors tous les compagnons avaient leurs gants de boxe. Alors on se foutait des peignets terribles. Si bien que Charles arrive, il aperçoit les gants de boxe. Il dit « Hey, hey Popole, on en fait une petite ?» Ah, je dis « Certain, alors on chausse les gants et on commence à se tabacher. » À un moment donné, je lui assène un coup. En pleine face, il m'a fait une telle grimace que je me suis mis à rire, mais à rire éperdument, sans me rendre compte que, la grimace revenue, le charlot se préparait à une attaque suicide. Il m'a foncé dessus, m'a donné un coup de poing dans les côtes, qui m'a laissé sans souffle. J'arrivais à respirer. Je me dis, merde, comment je vais chanter ce soir ? J'ai jamais compris que j'avais des côtes cassées. Je pensais que j'avais pris un petit coup, bon, musculaire. Et c'est il y a 6 ans, je vais passer une radiographie et un fameux radiologue me dit « Mais mon cher Bussonneau, vous avez eu des côtes cassées côté gauche. » Et soudain, je me rappelle du coup de poing d'Aznavour. Ah, il dit « Oh la vache! Oh le salaud! C'est lui !» Il dit « C'est qui ?» Je dis « C'est Aznavour. » Alors, si bien que je garde en souvenir, comme une médaille près du cœur, le coup de poing du grand charlot.
Chez les durs, les malabars,
ouch,
on appelle la bagarre. Oh. Lurififi, presque rien, un mot banal,
merde,
allume le signal. Rififi, dans ce remous, quand les hommes font joujou,
il
y a de la viande qui en prend un coup.
Oh la vache!
On entend des os qui craquent. Sans un cri, sans un murmure, on fait sa petite cure. Rififi. Dans l'espace,
arrête,
une bouteille passe, un verre se casse. On se rentre dedans, on crache des dents, ça pisse le sang.
Oh le salaud!
C'est chacun pour soi,
c'est lui!
On s'en donne à cœur joie.
Qui?
Et quand tout est fini, oh, on numérote ses abattis.
Le coup de poing du grand charlot!
Chez les durs, les malabars, on appelle la bagarre. Du rififi. Oh, presque rien, un mot banal, allume le signal. Du rififi.
Oh, oula!
Charles Aznavour, Les séjours d'Edith Piaf à New York.
Sur France Inter.
On avait annoncé une chanteuse parisienne. Alors de là, ils entendaient voir apparaître une femme habillée, je ne sais pas moi, par Balmain ou par Dior, grande, blonde, gaie. Et ils ont vu arriver cette petite femme maladive, pâle, habillée dans sa petite robe noire de 10 cents, ses cheveux pas coiffés. Ils ont été vraiment très très surpris la première fois. Il faut d'ailleurs qu'Edith n'a pas fait un succès immédiat aux États-Unis. Il a fallu qu'elle revienne une seconde fois pour que tout d'un coup il découvre le génie d'Edith. Et quand elle annonçait ses chansons, puisqu'elle les chantait la plupart du temps en français, elle faisait des annonces en anglais. Elle annonçait donc, c'est l'histoire d'une dame qui a une histoire d'amour, son ami l'a quittée et elle s'est tuée de telle ou telle manière. J'ai entendu souvent des gens dans la salle qui disaient, oh, comme elle est amusante cette petite avec tous ses malheurs.
This is a love song of a girl in a harbor anywhere in the world. One day she falls in love with a sailor who wants to marry her. But she realizes that she's unworthy of him, and she says to him, go away and forget me, honey, cause my destiny is to stay here. Au revoir, mon amour. C'est amour à Santiago, à Guaychabé, Bornéo. C'est amour à Santiago, à Rotterdam. Hello, Barney. You come with me. Amigo, te quiero mucho. Leave a little. Come down with me. C'est un beau ciel de pluie quand les nuages vont en parlant comme s'en vont les loups chalants le long des quais crevant d'ennui. C'est un bout à Santiago, à Whitechapel, Borneo. So long, boy. Adios, amigo. Nachher.
L'humoriste Roger Pierre se souvient des caprices d'Édith Piaf.
Il a vécu avec Édith Piaf, il était son secrétaire, son chauffeur. Charles Aznavour lavait la voiture d'Édith Piaf. Elle allait aux États-Unis, Charles ne chantait pas, il portait les valises, il composait, il écrivait, il ne chantait pas, elle passait au Versailles, et c'était une femme qui avait des caprices. Elle adorait le film Le Troisième Homme. En arrivant à New York, trouvez-moi un journal où on joue Le Troisième Homme. Imaginez, 15 ans après, ils ont trouvé un cinéma en banlieue de New York. Eh bien, Édith Piaf, Charles Aznavour, Pierre Roche, et puis toute une armée de secrétaires et d'assistants se sont retrouvés tous les après-midi en matinée pour voir Le Troisième Homme. À tel point que le patron du cinéma, il les voyait arriver à 15 heures, il fait « Oh, French crazy !» Il dit « No, no money !» Ils ne payaient plus leur place. Il trouvait ces gens complètement dingues de venir voir pendant 15 jours Le Troisième Homme.
Votre taxi, monsieur Jarrot. Oh, merci, monsieur.
Quelqu'un nous avait donné une adresse d'un impresario qui était à Rockefeller Center chez William Morris. Alors évidemment, nous étions toujours bien habillés parce qu'on avait nos habits de scène. Eux, ils avaient le leur et moi, j'avais un tuxedo. Effectivement, on était toujours en tuxedo, nous autres. Ça faisait bien, les chemises étaient peut-être pas lavées, mais le devant était toujours lavé, par exemple. Alors là, nous arrivons chez William Morris, on nous amène dans une grande pièce, et dans cette grande pièce, il y a une porte de bureau, et il y a un piano. Alors évidemment, quand il y a un piano, la première chose que fait Roche, c'est de se mettre au piano. Et Aznavour, c'était de chanter. Et à ce moment-là, il chantait la fameuse chanson « J'ai pris le premier train qui partait le matin dans un compartiment, je ne sens pas bien ». Alors évidemment, il y avait beaucoup de rythme. Et puis, il y avait aussi « Dans de menu monnaie qui me remplit les poches, dans de menu monnaie qui me remanche », puis tout ça. Et la porte s'ouvre, le gars écoute. Et là, le monsieur m'explique très carrément, il me dit « Écoutez, on ne pourra pas discuter de commission, on ne pourra pas discuter de ça, je vais vous donner un prix. C'est parce qu'on a une jeune chanteuse qui va débuter ». Dans le Café Society Downtown, qui était le restaurant la mode, mais c'était pour lancer Patti Page. Ce qu'on avait besoin, c'est de quelque chose qui, avant elle, pourrait tenir la salle, mais pas la détruire, parce que si vous allez trop fort, si vous faites trop de bruit, ces gens-là n'acceptent pas ça. Alors, on me signe un contrat, 3 semaines à $350 par semaine. Je dois vous dire que quand je suis sorti, j'ai dit, j'ai le contrat, $350. Il pense pour 3 semaines, non, c'était par semaine.
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale.
Novembre 1948, c'est pour vivre paisiblement son idylle avec Marcel Cerdan qu'Édith Piaf envoie Roche et Aznavour à Montréal. La très catholique ville aux 100 clochers abrite à l'époque un red light bouillonnant. Première escale au cabaret Quartier Latin.
En 1950, j'étais parti avec les tours des Jean Richard jouer une revue Les Burlesques de Paris à Montréal. Et c'est un très gros succès parce que Bourvil, qui était d'origine normande, a été accueilli comme un cousin. Et le soir, on sortait et on a été invité dans une boîte de nuit. Et on s'est retrouvé avec Bourvil, toute la troupe des Burlesques de Paris, dans ce cabaret. Et il a annoncé un moment, et voici dans notre programme, les Français Swing. Ils ont joué à Broadway dans un tout petit cabaret, ils ont fait un gros succès, et là-bas, les critiques ont marqué deux garçons étonnants, des Français Swing, ou les Swing French. Ils chantaient à l'époque, ils portaient à votre topé, ils marchaient à bas convidés, ils buvaient des cafés parfumés, avec des paris, ils étaient tous les guingandés. Et j'ai connu Charles Aznavour à Montréal.
Le duo Roche et Aznavour ne pouvait passer par Montréal sans y croiser l'âme de la vie nocturne, Jacques Normand.
C'était une époque assez extraordinaire parce que, vous n'êtes peut-être pas très au courant, mais à l'époque, on recevait surtout des artistes de langue anglaise. Et je peux dire que sans Jacques Normand, il n'y aurait pas eu le premier effort pour présenter des artistes de langue française sur une scène canadienne. Et la première fois où il y a eu un spectacle qui a eu un grand succès dans le Québec et qui a été un spectacle français, est un spectacle auquel je participais, c'est le spectacle du Faisan Doré, où il y avait Jacques Normand en tout premier lieu, Monique Lérac et Roche et Aznavour.
Bonsoir, soyez les bienvenus au Faisan Doré.
À Montréal, c'est merveilleux.
À l'époque, la comédienne et metteur en scène Denise Filiatro n'a pas l'âge requis pour entrer au Faisan Doré. Et pourtant...
Le midi, je revenais de l'école. J'écoutais les chansons françaises, la chansonnette française. Mais on entend toujours Mireille. Mon petit chapeau vert, c'est pour mon Albert. Mon petit chapeau noir, c'est pour mon Édouard. Et mon chapeau gris, c'est pour mon Henri. Bon, je me rappelle encore. Bon, Sablon que j'adorais. Je trouvais qu'il y avait une voix très sexy, vous, qui passait sans me voir, sans même me dire bonsoir. Un peu d'espoir. En tout cas, moi, j'aimais beaucoup Tino Rossi, Reda Kerr. Mais pendant 5 ans ou 6 ans de guerre dans 39-45, d'écouter toujours les mêmes tunes, les gens pensaient que la France, ils se promenait encore avec l'accordéon, la baguette en dessous du bras, puis le béret sur la tête. Alors qu'Aznavour est arrivé, lui, beaucoup plus, je dirais pas jazzé, j'irais pas jusque-là, mais ne serait-ce que « Il portait pam, paris, barababa, pam, pam ». Hein? C'était très avant-gardiste. Alors, nous, on était habitués aux orchestres américains, à la musique américaine. Les gens étaient fous de joie d'entendre ces mélodies avec des textes français. Alors, on faisait un triomphe. Les gens l'adoraient.
Il portait un feutre topé. Il parlait par un onomatopée. Il buvait des cafés frappés avec des pâtes. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiné, boulevard à Spaille. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant, tandis que les gens disaient en s'éloignant. Oh, il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiné, boulevard à Spaille. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému.
En voici ce que j'ai retenu. Tout, tout, bah, les bip, bip, tout, y'a pas, nous, ah! Elle était très intéressée, se laissa très, très vite invitée à prendre un bon café frappé avec des pailles. Elle lui plaisait fortement. Quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car, justement, eh bien, mais elle aimait son feutre tombé, son parler par onomatopée et aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée et prenait un air détaché, un air canaille. Quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même, même il ajoutait ces mots gentils. Plus tard ils se sont mariés, se la fit un ménage cinglé qui se balade à pas combiner boulevard à Spa. Il faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé, des cafés frappés, avec des pommes.
France Inter.
Voilà votre martini, monsieur. La chanteuse Monique Lérac n'a pas oublié l'époque du faisan doré. C'était bien avant qu'elle ne chante Nelly Gant.
J'ai rencontré Charles pour la première fois au faisan doré. C'est une immense boîte de nuit qui se situait dans un deuxième étage à l'angle de la rue Saint-Laurent et Sainte-Catherine, c'est-à-dire le centre de la ville. Il faut dire qu'à cette époque-là, les chanteurs qu'on voyait, c'était pas longtemps après la guerre et qu'on avait entendu à la radio, bien sûr, Trenet, Jean Clément, Tino Rossi, Lise Gauthier, Lucienne Boyer, des gens comme ça. Et d'un seul coup est arrivé sur scène un soir deux garçons, Pierre Roche, Charles Aznavour, des duettistes, qui se sont emparés de cette scène-là et qui ont apporté avec eux toute la modernité de la France. C'était tous les azous, c'était très très étonnant leur présentation parce qu'il y avait ce grand maigre, un peu chauve déjà, avec des lunettes, qui était au piano. Et puis il y avait ce petit bonhomme, pas très joli, mais extrêmement sexy parce que l'espèce de dichotomie, même l'opposition totale entre cette voix râpeuse qui traînait toutes les langueurs de l'Orient, n'est-ce pas? Il faisait énormément de gestes et il bondissait d'un seul coup sur le piano. Et ici, ce public qui était en même temps un public averti, un public populaire, les a adoptés dès le premier soir sans savoir s'ils étaient connus ou pas connus, ou simplement sur la qualité de ce qu'ils faisaient.
Ah tiens, Jacques Normand vient d'arriver. Et ce soir, il reçoit son ami Aznavour.
J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal. C'est merveilleux.
On en a connu quelques-unes, les nuits de Montréal.
Oui, on les a faites, même. Je me demande même si on a connu les nuits, on a plutôt connu les matins, les aurores de Montréal.
On connaissait tous les laitiers. Oui. Il n'y a pas un laitier qui ne nous connaissait pas. Bonjour.
Oui. On n'était pas clients, mais...
Non, on n'était pas tellement clients. On chantait « J'aime les nuits
de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. »
Et au trombone, on avait...
Ça, le même.
On avait le même.
Rien de changé.
Rien de changé.
On a nos vieilles habitudes et on s'y tient.
Il faut de tout pour faire un monde. Des brunes, des blondes.
Bon, papa, il fait ça parce qu'il y avait 150 musiciens derrière qui jouaient.
Oui, il y avait 150 musiciens.
On avait les...
C'était la première fois que j'avais une chanson chantée jouée par 150 musiciens.
Confidence pour confidence, c'était la première fois que je chantais contre 150 musiciens.
Faut se battre.
J'ai pas dit pour, hein,
non,
pas avec.
Oui, oui, faut se battre.
Mais on a fini en même temps. C'est formidable, parce qu'après ça, il y a eu une chanson que j'aimais beaucoup,
qui allait comme ceci. Des lacs, des plaines,
des montagnes et des bois, mes souvenirs m'entraînent sous le ciel de chez moi.
On dirait Patrice et Mario.
Jeunesse heureuse.
Parle pour toi. Hein. Tu te souviens aussi de la légende.
La légende de Trois-Rivières.
La légende de Trois-Rivières.
Les trois filles qui pleuraient.
Leur mari qui était pas revenu, les pauvres. D'ailleurs, c'est de là que la rivière, les Trois-Rivières existent.
Ah, c'est vous
j'espère bien que dans 500 ou 600 ans, on dira Trois-Rivières, mais attendez, donc
Aznavour,
la légende, c'est...
Ça a été découvert par Aznavour.
Oui, c'est les trois femmes d'Aznavour, enfin les trois femmes, je veux dire par là, les trois jeunes femmes de la chanson d'Aznavour.
On va tout savoir, mes enfants.
Non, faut même pas, mais je veux dire, les trois femmes de la chanson d'Aznavour qui ont fait que ce fleuve coule là en ce moment.
Il y a trois rivières.
Oui, mais c'est
Three rivers.
As you say.
Ah bon, c'était à Québec, on était à Québec ensemble, on a fait une tournée.
Oui, je suis revenu tout seul avec Roche.
J'ai eu l'inspiration, t'as trouvé un titre absolument, quelque chose.
À propos. En revenant de Québec.
Ah, ça, c'était trouvé.
C'est en revenant que j'ai trouvé le titre.
J'avais travaillé 15 jours là-dessus. Hein. Allez, un garçon solitaire.
Non, tu vas leur faire croire que je mettais 15 jours pour revenir de Québec.
Ben non, c'est pour ça que
j'ai mis 15 jours pour faire la chanson. Peut-être, mais trouver le titre, je l'ai trouvé tout de suite. Un éclair de génie.
Tout seul, comme ça, boum.
En revenant de Québec.
Un garçon solitaire.
Non, non, là, tu as oublié un petit truc qui est très important. En revenant de Québec.
Bec.
Voilà.
Mais c'est pas nous qui l'avons trouvé.
C'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est le public. C'est le public qui l'a trouvé.
Le patron, quoi.
Oui.
Qui un jour a dit Bec.
Le second auteur de chaque chanson.
Un garçon solitaire marchait sans peau, sans faire. En revenant de Québec. Quand il vit souriante, une jolie passante. En revenant de Québec. Elle marchait légère, il se dit j'aimerais faire un bon chemin avec. Mademoiselle en campagne, devenez ma compagne, souffrez que je vous accompagne en revenant de Québec.
Pour Suzanne Avant, l'ami de Monsieur Aznavour, pas de martini. Ce sera plutôt un thé citron.
They hit the town, comme on dit en anglais, and they really hit it hard. C'est-à-dire qu'il y en avait que pour eux. Et donc, peut-être un mois après, la ville de Montréal bruissait du comportement de ces deux marins embordés qui étaient Charles et Pierre. Les filles étaient, leur couraient après tout. Ils ont fait une vie évidemment de barreaux de chaises. Ce qui fait que moi, Radio-Canada, quand on m'a rencontré, on me dit, dis donc, tu les connais, là? Il paraît que tu les connais. J'ai dit, non, moi, je ne les connais pas du tout. Je n'ai jamais rencontré ces gens-là. Je ne voulais pas vous faire ça. Je niais de les connaître.
J'étais amoureux fou de demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. Je n'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne le veux pas, tu ne le peux pas, tu ne le pourras pas. Ah ah. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Ah. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. À quoi bon de faire de la bile? Ne fais donc pas l'imbécile. Mon ami, je te dis, c'est la vie. Mais oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais des dents. Et tout autour de moi, je voyais entendre des voix. Ces voix jour et nuit me disaient ceci. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne le veux pas, tu ne le peux pas, tu ne le pourras pas. Ah ah. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Ah. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oublie la.
Cette bouteille de champagne pour la table de Madame Lérac.
Ce succès qu'il a eu, d'une part, a dû lui donner une sorte d'attachement particulier au Québec, j'en suis sûre de ça. Et c'est dû en grande partie à ça, de l'accueil des gens d'ici, aussi bien dans la colonie artistique que du public. Et puis, ça lui a donné une confiance en lui. Il savait qu'il pouvait monter sur scène et chanter pendant 2 heures sans ennuyer le public. S'il n'avait pas eu cette ambition extraordinaire, cette fin-là, il serait peut-être resté ici. Mais le reste du monde l'appelait. Et il y est allé.
Après 18 mois de tournée et de succès au Québec, c'est la rupture du duo Roche et Aznavour. Frenchy Jarreau.
Il avait un duo. C'était Roche et Aznavour. Et ces duos-là, à part Charles Trenet, qui est devenu une grande vedette, les autres ne sont pas venus des vedettes. On ne savait pas à ce moment-là qu'il deviendrait cette vedette-là. Et même quand il se rencontrait avec Charles Trenet, d'ailleurs, à Québec, on ne voyait pas le futur qu'il aurait pu avoir. Ce futur, je pense, s'est dessiné quand il a décidé de faire la rupture avec Roche. Roche a dit « Moi, je reste à Montréal ». Et il a été pianiste pendant des années, dans un grand hôtel. Et puis, il s'était marié avec Aglaé, il y avait tout ça. Aznavour avait des ambitions. Et je présume que ces ambitions, il les avait trouvées avec Édith Piaf. Je pourrais pas dire qu'elle était amoureuse d'Aznavour. Mais elle savait que Aznavour avait quelque chose. Elle décelait le talent.
Pierre Roche.
On devait revenir pour chanter au Baltabarin à Montréal. Et finalement, Aznavour, je lui téléphone, je lui dis, il faut qu'on reparte d'ici 8 jours, on repart à Montréal. Il m'a dit, je repars pas. Je dis, comment tu repars? Non, je repars pas, je reste ici. Piaf lui avait dit, je vois pas pourquoi vous voulez continuer une carrière à deux, alors qu'il n'y a pas d'avenir pour vous au Canada, parce qu'il n'y a pas assez de public, il n'y a pas assez d'endroits pour chanter. Vous allez piétiner et végéter sur place, alors qu'en France, vous avez toute une carrière à faire. Carrière d'auteur, carrière de chanteur, il y a une carrière à faire pour vous. C'est Piaf qui a décidé. Et Aznavour a dit, ben d'accord. Et il est resté à Paris. Voilà. Alors, pendant un an et demi, mieux vous dire qu'on ne s'est pas regardé, on ne se voyait pas.
Désormais, on ne les verra plus ensemble. Charles Aznavour.
Avec Roche, on savait très bien qu'un numéro de duettiste ne pouvait pas tenir toute la vie. Parce que le duettiste, c'est bien à l'époque où on n'a pas de rides. Mais à partir du moment où, comme sur la caricature, on a perdu ses cheveux, on a des rides prononcées, on ne peut plus venir chanter la jeunesse, le printemps, il faut chanter autre chose. Alors là, à deux, c'est encore plus terrible que seul.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même. Ma main de ta main séparée.
France Inter.
La première rencontre de Georges Moustaki et de Charles Aznavour. C'était avant que le jeune métèque ne devienne l'amant d'Edith Piaf.
J'étais pianiste dans un petit restaurant où il est arrivé un jour avec un costume, un manteau à carreaux qui était presque plus large que haut, et à l'intérieur duquel il y avait donc Aznavour, qui n'est pas un géant comme on sait. Et vraiment, j'ai ce souvenir de quelqu'un qui avait un vêtement qui le rendait presque à l'horizontale, tellement il y avait des épaules très larges. Et avec une voix un peu comme ça, un peu cassée, qui a fait sa gloire, il dit « Voilà, je reviens du Canada où j'ai passé beaucoup de temps, mais maintenant je veux partir à la conquête de Paris. » Il disait ça à la cantonade. Il m'a demandé la place au piano. Il a chanté des chansons qui étaient très swingantes, qui étaient très, entre guillemets, modernes. J'imaginais mal que ça fasse la carrière que ça a fait, mais ça me l'a rendu terriblement sympathique parce qu'il y avait cette rage, il y avait ce talent en plus.
Micheline Dax, la complice de Charles Aznavour pendant les années Piaf.
Edith adorait Charles, bien sûr, qui lui a écrit des merveilles. Et moi, j'étais très amie avec Edith. Et puis une année, elle a commencé à entreprendre une tournée d'été dans les villes où il y avait des arènes, vous savez. Et elle a dit, vous allez venir tous les deux, vous ferez mes choristes. Non seulement elle nous prenait comme choristes, mais elle voulait qu'on chante chacun une ou deux chansons de notre répertoire qu'on faisait à Paris, dans des cabarets, tout ça. Et elle faisait quelque chose que je n'ai jamais revu. Elle venait avant sa propre prestation. Alors elle se faisait ovationner, bien sûr. Et elle disait, attendez, je vais vous présenter deux jeunes qui font des choses un peu particulières et je vous demande de les écouter, je les aime beaucoup. Et on se faisait huer, vous demandez à Charles. On a des souvenirs d'horreur. Au casino de Deauville, on arrivait, ils étaient au café, ils prenaient leur cuillère et ils tapaient dans les tasses, vous savez, c'est agréable pour chanter. Lui, c'est un battant, hein. Il bronchait pas, mais moi, j'étais prête à m'en aller, mais à genoux. Hein. Et Edith était là, au coin de la scène, et elle me disait, tu restes là, tu attends qu'ils montent et qu'ils te virent, mais comme ils sont lâches, ils le feront jamais, et moi je leur en chanterai deux de moins.
C'est un gars qui m'a dit des folies. Tu es jolie, tu es jolie.
Avec Charles, on reparle toujours d'Edith, parce que cette fameuse tournée dont je vous parle, elle nous avait demandé de venir répéter chez elle. À l'époque, elle était dans un hôtel particulier, plus que sobre. Et il y avait une pièce, une rotonde comme ça. Et elle nous a enfermés là-dedans. Charles, Constantine, le pianiste, tout ça. Et puis elle avait demandé expressément de ne pas être dérangée. Et nous ne devions plus sortir de là. Si on sortait, on faisait pas la tournée. Bon, très bien. Avec Charles, on était... on n'a pas bougé. Et on commence à répéter, elle était de tellement mauvaise humeur et de très mauvaise foi, elle nous engueulait les uns et les autres, pas comme ci, pas comme ça, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, etc. Et à un moment donné, dans cette ambiance un peu lourde, entre la secrétaire, qui croit ne pas trop déranger en disant à l'oreille d'Edith, Edith, il y a Paris Match qui est là. Quoi ? J'avais demandé, on ne me dérange pas ! Mais Edith, le photographe est là. Le photographe qu'il aille se faire, je vous passe les termes, n'est-ce pas ? Traduisez vous-même. Et s'encadre dans la porte le plus beau garçon que j'ai vu de ma vie jusqu'à vous. Et ce malheureux a entendu. Il était dans la porte, rouge vif. Et il dit, mais madame, si je vous dérange, pas du tout. Mais pas du tout, monsieur, je vous en prie. Entrez ! Et il me disait, tu vois ce que je vois ? Et ça mange comme nous, c'était une de ses expressions favorites. Nous, on était complètement médusés. Et alors ce garçon a dit, mais madame, si je vous dérange, non, 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 non. Ma camarade, elle me faisait du coude et moi-même, on fera ce que vous voulez. Alors, pour faire des photos, elle lève la tête et dit, comme ça, vous êtes photographe. Oui, madame. Non, il n'y a pas une photo de vous. Vous voyez, ça, c'est quand même inouï d'assister à ça. C'était un titi parisien, Edith. Elle était drôle. Elle aimait rire, demander à Charles. On a eu des séances de fou rire magnifiques. Elle aimait les gens qui la faisaient rire. Charles la faisait beaucoup rire. Moi, il paraît aussi. Mais enfin, elle aimait ça. Elle aimait rire autant que chanter. Je vais jusque-là, moi.
Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleurent le vent.
Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends.
À son retour de Montréal, dans l'appartement d'Édith Piaf, Charles Aznavour croise pour la première fois Gilbert Bécaud. De cette rencontre naîtront plusieurs chansons.
Vous avez travaillé récemment, Charles Aznavour, avec Gilbert Bécaud. Vous avez écrit, d'après ce qu'il m'a dit, de nombreuses chansons ensemble.
Exactement 7 chansons, nous avons écrites.
Vous êtes d'accord pour écrire vos chansons ensemble, mais pour l'interprétation, il y a tout de même des différences, précisément, entre vous et Gilbert Bécaud.
Oui, il y a une grande différence, mais heureusement qu'il y a une différence. C'est-à-dire que Gilbert est un musicien, est un compositeur, il voit beaucoup plus la chanson du côté musical. Moi, je suis un auteur et, je détaille beaucoup plus le texte.
Par conséquent, une chanson présentée par Charles Aznavour et une chanson interprétée par Gilbert Bécaud, il s'agit de la même chanson, est tout à fait différente.
Ben, si vous prenez par exemple le cas de « Je t'attends » avec Gilbert Bécaud, une chanson très rythmée, c'est-à-dire qu'il s'est attaché au rythme, il a chanté la musique, il l'a jazzé, tandis que moi j'en ai fait une bossa nova pour pouvoir beaucoup plus détailler le texte.
« Je t'attends, ouais, viens, 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 ne tarde pas. » D'où que tu viennes, qui que tu sois, vient le temps, écoute, ouais, je t'attends, mon rêve inconnu. Quel est ton nom, quel est ton but, le mien c'est l'amour.
France Inter.
Nous allons arriver à Montréal dans très peu de temps. Ce matin, dans le wagon salant du Pullman, New York-Montréal, nous retrouvons les mêmes visages qu'hier. La vieille demoiselle écrit une dernière lettre, l'homme d'affaires étudie ses dossiers. Et voilà Gilbert Bécaud qui vient prendre son petit déjeuner. Bien dormi, Gilbert ?
Bien, merci, et toi ?
J'ai rêvé des choses surnaturelles.
Ah, tu vois, tu vis bien toi aussi au surnaturel, c'est tellement plus pratique.
Tu as correspondu avec d'autres amis que Pierre Delannoy ?
Bien sûr, tiens, Charles Aznavour, eh bien, je l'ai vu comme je te vois.
Non.
Mais je t'assure, non. Je l'ai vu exactement comme je te vois.
Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Il m'a dit bonjour d'abord. Il m'a dit bonjour, puis un tas de choses agréables, je sais pas moi.
Écoute, puisque nous parlons d'Aznavour, oui. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu as rencontré Charles Aznavour.
J'ai rencontré Aznavour il y a déjà pas mal de temps. Chez Édith Piaf, un jour, où nous mangeons dans la cuisine, tard, pour le spectacle. Nous prenions une petite collation tous ensemble et est apparu Charles Aznavour. Édith m'a présenté Charles Aznavour comme un auteur sensationnel et j'ai vu tout de suite qu'elle ne s'était pas trompée. D'ailleurs, ce n'est pas difficile à s'en apercevoir. C'est vraiment un auteur sensationnel. Je ne sais pas, moi, comment décrire Charles Aznavour. C'est un personnage curieux, un personnage très intéressant. C'est vraiment, à mon avis, c'est un des grands auteurs que je connaisse. Il écrit des choses formidables. Une chanson comme, je pense, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Il fait souvent la musique, d'ailleurs, de ses chansons, cette chanson. Il en a fait la musique, je crois, aussi. Plus clair que le clair, la la la. Je la connais pas par cœur, mais elle est très jolie, je sais pas moi. Il en a écrit des dizaines et des dizaines, et presque tous des succès. Puis avec moi, il en a écrit pas mal. Il a écrit Un nouveau printemps, tout neuf. Viens, viens, allez, viens. Allez, viens. Il a écrit Meke Meke, mais ça, c'est une blague, ça. C'est pas le véritable parolier qui ressort dans Meke Meke.
Le navire est à quai, il y a des tas de paquets. Des paquets posés sur le quai, là, dans un petit troquet d'un port martiniquais, une fille belle à croquer, là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Elle, dans un hockey, lui tendant son ticket, lui dit chérie que tu vas me manquer. Mickey, Mickey, hey, mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mickey, Mickey, hey, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. La sirène brusqua leurs adieux délicats, mais soudain tout se compliqua. La petite masqua un instant son tracas, pourtant son courage manqua. Là, elle dit j'ai peur, il ne faut pas partir. Vois-tu mon cœur, sans toi je vais mourir. Le garçon expliqua qu'il fallait en tout cas qu'il parte, et c'est pourquoi il embarqua.
Mickey, Mickey, hey, mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mickey, Mickey, hey, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Les paquets embarqués, le bateau remorqué, lentement a quitté le quai. Là, ne soyez pas choqués, n'allez pas vous moquer de ce que je vais expliquer. Là, regardant au port, son bel amour à terre, pris de remords, il plonge dans la mer. Devant ce coup risqué, par l'amour provoqué, les requins en restèrent interloqués.
Mickey, Mickey, mais qu'est-ce que c'est?
Une histoire de tous les jours.
Mickey, Mickey, mais qu'est-ce que c'est?
C'est le début d'un nouveau jour qui est fait pour durer toujours. Car l'amour vient pour retrouver l'amour.
Je me mets dans la peau d'une personne qui serait amoureuse ou d'une personne qui serait jalouse. Je travaille énormément devant ma glace. J'ai besoin presque de me faire pleurer pour dire des choses tristes. J'ai le côté un peu guignol de la chose. Je suis une sorte de clown qui va de glace en glace. D'ailleurs, j'ai énormément de glace. Et je me promène dans ma pièce, chez moi, en regardant dans les glaces. Je regarde les attitudes, mes attitudes. Et puis quand je me suis vraiment mis dans le bain, j'ai les larmes aux yeux. Là, j'ai l'impression que la chanson est faite. Et puis alors, je dispose des feuilles de papier un peu partout dans la pièce, sur le piano, sur la table, sur une chaise, pour ne pas avoir à revenir vers une table, pour ne pas faire un mouvement inutile. Parce que c'est sur le moment que je dois écrire. Si je n'écris pas ma phrase, sur le moment, je l'ai oubliée deux secondes après. La chanson est fidèle. C'est-à-dire que quand on a écrit une chanson, on se la chante, on se la donne, on la donne aux autres, on recueille les applaudissements, on recueille même l'argent, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on l'oublie. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en dehors de ces questions-là, moi pas. J'aime beaucoup l'argent que je gagne avec mon métier. Je l'aime d'autant plus qu'il me nourrit bien. J'ai voulu être chanteur, à toute force, et puis j'ai réussi à l'être. J'avais confiance. Je savais que ça marcherait.
C'était Charles Aznavour, au nom de la jeunesse. Une production des radios francophones publiques. La RTBF, la Radio Suisse Romande, Radio France et Radio-Canada. Narration et entrevue, Monique Giroux et Francis Legault. Réalisation, Francis Legault, assisté de Françoise Tremblay.
Je t'aimerai.